On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Eh bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques. Bonjour à toutes et tous, bonjour à chacun, chacune. C'est l'invité de 11h et quelques sur Radio BLV. C'est Sylvie au micro et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir, pour la première fois, mais sûrement pas pour la dernière, Benoît Vuillon, nouveau directeur du Train Théâtre de Porte-les-Valences. Bonjour Benoît.
Bonjour à vous.
Alors, est-ce que j'ai bien dit Vuillon ?
Absolument.
Très bien.
Et c'est assez rare de le prononcer de la bonne façon. Donc, bravo.
tant mieux. Moi, ma bilon, on me met toujours deux L. Voilà. Donc, toi, c'est bien avec deux L. On se tutoie parce que c'est le jeu dans l'invité de 11h et quelques. Nouveau directeur du Train Théâtre, je disais. On avait prévu de faire une petite réunion avec Luc pour faire une présentation. Ça n'a pas pu se faire en 2021, donc je t'accueille tout seul. Et je suis ravie de cette première rencontre. Benoît, tu es installé officiellement depuis le 1er janvier 2022. C'est très, très, très récent. Qui c'est Benoît Vuillon ? Alors, je sais que tu as œuvré dans la culture depuis pas mal d'années maintenant. Je ne dirai pas ton âge, je ne le connais pas, on va rester. Mais par contre, toujours dans la culture et avec quand même une couleur musicale très, très prégnante. Et notamment, tu as été à Évreux, le fameux festival, un grand festival que tout le monde, qu'on ne connaît pas tous forcément. Je suis en train de rechercher
le rock dans tous ses états.
Voilà, le rock dans tous ses états à Évreux, où on pourrait parler de l'importance de l'engagement politique sur les politiques culturelles d'ailleurs. Et puis depuis 2010 à 2021, tu étais directeur et développeur, pourrait-on dire, de l'Union nationale des jeunesses musicales de France, les fameux JMF, auprès desquels tu as fait un vrai boulot, visiblement reconnu en tous les cas par la profession.
C'est...
Alors on va en parler un petit peu plus parce que d'abord c'est pas forcément très très connu que c'est les JMF, à part par les professionnels de la profession comme on dit, et puis par toutes celles et ceux qui en bénéficient sans nécessairement savoir d'où ça vient. La musique, donc, c'est quand même un fil rouge important dans ta carrière.
C'est le fil rouge de ma carrière, oui. Si on peut parler de carrière. Hein.
Mais, en tous les cas.
Oui, j'ai à la fois travaillé pour la musique, mais j'ai aussi fait beaucoup de musique moi-même, puisque j'ai été au conservatoire et en section art lyrique. Donc la question de la voix est très importante dans mon parcours. Et du coup, on la retrouve aussi bien dans le projet que je porte pour le Train Théâtre que dans le parcours qui a été le mien jusqu'à aujourd'hui.
Alors, le section art lyrique, donc ça veut dire que tu étais un chanteur ?
Oui, je suis encore un peu à mes heures perdues.
Oui, pardon.
encore ténor. Et voilà, je chante quand je le peux, oui.
Et ça vient d'où ? C'est le petit Benoît, ne jouait pas aux voitures, aux petites voitures, mais
alors,
écoutait de l'opéra ?
C'est pas tout à fait ça. C'est que quand j'étais dans le milieu scolaire et que voilà, ou notamment au collège, je me rappelle que, mais même en primaire, c'était déjà le cas, plusieurs professeurs ont dit à ma mère « Votre enfant chante très bien, il faudrait qu'il fasse du chant ». Bon, ça ne s'est jamais présenté. Et puis, pour l'anecdote...
Mais tu aimais chanter quand même, toi.
J'aimais chanter,
voilà,
oui. J'aimais chanter, je chantais souvent pour les anniversaires ou pour des fêtes de famille. On me disait « Allez Benoît, c'est ton tour », il fallait que je m'y colle. J'ai une sœur qui a 4 ans de moins que moi. Et quand elle s'est retrouvée, elle, en 3e au collège, moi j'étais du coup au lycée, et le professeur de musique que j'avais eu au collège, qui était son professeur de musique, lors d'un spectacle de fin d'année du collège, m'a demandé, en tant qu'ancien élève, de venir faire une surprise et de venir interpréter, pour ne pas la citer, j'aurais voulu être un artiste. Et à la fin, non, c'est pas facile. Mais, et à la fin de ce gala de fin d'année, il y a un monsieur qui est venu me voir en me disant est-ce que vous voulez faire de l'opérette ? Et je lui ai dit non, monsieur. Si un jour je dois faire du chant, ce sera de l'opéra. Voilà.
Et bien compris déjà.
Ça, c'était au mois de juin. Et dans la foulée, en septembre, je me suis pointé au conservatoire de Toulon, puisque je suis originaire du Var. Et j'ai rencontré la professeure de section art lyrique du conservatoire. Et je suis arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe, en lui disant « je voudrais chanter ». Elle m'avait dit « mais ici, monsieur, vous savez, on ne chante pas, on fait de l'opéra ». Alors, elle m'a dit « qu'est-ce que vous connaissez comme répertoire ?» À l'époque, Lambert Wilson avait sorti un album de reprises de chansons, plutôt de comédies musicales. Mm-hmm. Et du coup, je lui avais dit ben, « tout ce que chante Lambert Wilson, je peux le chanter ». Elle m'avait dit « non, mais ça, c'est pas de l'opéra, ça ». Et en dehors de ça, j'avais dit ben, « Aznavour, Brel, Montand ». Et elle m'a dit « bon, écoutez, on va laisser tomber ça de côté, je me mets au piano, on va faire des vocalises ». Et donc, on a fait des vocalises, et à la fin de l'heure de vocalise, elle m'a dit « très bien, vous avez un mois pour préparer le concours de chant ».
Waouh, c'est que vraiment, il y avait quelque chose.
Et donc, j'ai préparé le concours de chant et j'ai été pris. Voilà. Et du coup, j'ai fait après tout mon parcours à Toulon. Après, je suis parti faire mes études à Montpellier, à l'université où j'étais en aménagement du territoire, du coup, en géographie. Mais je faisais les deux cursus en même temps. J'ai été pris après au conservatoire de Montpellier. Mmh. Et après, je suis parti faire une classe un peu spécialisée avec une grande dame de l'art lyrique à Sète. Voilà, donc j'ai fait quelques années d'apprentissage de la maîtrise de la voix. Parce que
mais
ça
du coup,
se travaille.
Pas parti dans la carrière.
Alors non, j'aurais pu. Sincèrement, j'aurais pu. En fait, j'ai pas mal fait de renfort de chœur à l'opéra de Montpellier. Mmh. Et du coup, j'ai quand même pas la voix du siècle, hein, sinon ça se saurait. Donc j'aurais pu intégrer certainement les chœurs de l'opéra de Montpellier. Mais quand j'ai vu, comment dirais-je, l'ambiance et la façon de faire des choristes de l'opéra, je me suis dit que ça allait pas être pour moi. Être fonctionnaire de la musique, c'est pas forcément... Voilà, j'ai plein d'anecdotes qui font que je me suis dit, non, franchement, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai pas fait. Et j'ai fait du chant, j'ai continué à faire du chant.
Oui, pour le plaisir.
Pour le plaisir, pour, voilà. Sans en faire mon métier. Mais bon, ça s'est... Il s'est retrouvé que je faisais études de géographie, et puis qu'à un moment donné, quand je suis arrivé en thèse de géo, où je faisais une thèse sur vieillesse, dépendance et espace géographique. On était très très loin de la musique. Mais en parallèle de ça, j'avais créé une association avec une professeure de direction de chœur qui s'appelle Sylvie Golgevit à l'université de Montpellier 3, qui s'appelle ECUM, Ensemble Chorale Universitaire de Montpellier, qui existe toujours, dont le principe était de tous les deux ans de créer une production à l'Opéra de Montpellier avec des étudiants sur le plateau et en fosse d'orchestre. En fosse d'orchestre, c'était souvent des étudiants du conservatoire, du coup. Et sur le plateau, c'était les étudiants qui avaient envie de chanter et encadrés par les professionnels. Donc, metteurs en scène, chorégraphes, chefs de chant, chefs de chœur, voilà. Chef d'orchestre, bien entendu. Et du coup, oui, ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde, de vivre des expériences incroyables. Et donc, quand en thèse, ça ne s'est pas très bien passé avec mon directeur de thèse, ben, ça m'a permis de basculer sur m'occuper de cette association pendant 2 ans. Et ensuite de valider mon acquis associatif par un diplôme que j'ai fait à Lyon d'ailleurs, à l'ex-ARSEC.
ARSEC, oui, voilà. Bien sûr.
Donc je suis là, peut-être une dernière promo, je crois, c'était 98-99. Il n'a pas dû y en avoir beaucoup d'autres après. Hein.
Non.
Et voilà, et suite à ça, j'ai démarré ma carrière au Crous de Montpellier.
Voilà. D'accord, voilà comment on fait le grand écart de l'aménagement du territoire à la musique. Mmh. Et c'est un parcours effectivement assez atypique pour...
Souvent dans la culture. Hein.
Oui.
Les parcours dans la culture sont rarement très linéaires.
Hein. Oui, c'est vrai.
Mais même dans la vie générale.
C'est vrai, mais on va dire que partir de l'art lyrique et arriver à rock dans tous ses états, et, mmh. par exemple, c'est quand même un joli grand écart aussi.
C'est pas sans me l'avoir été dit quand je suis arrivé en Normandie, justement, où on m'a dit, parce que j'arrivais de la scène nationale de Sète, mmh. et on m'a dit, toi, tu fais du théâtre. Tu n'es pas un rocker. Non, je ne suis pas un rocker, mais enfin, si on peut parler de musique, il n'y a pas besoin d'être un rocker pour parler de musique. Mais oui, tout à fait, ça a été un grand écart, oui.
Est-ce qu'on peut dire finalement que ce métier de passeur de culture, parce que c'est vraiment ça, être à la direction d'un, que ce soit un festival, que ce soit une grande salle, c'est être passeur avant toute chose, c'est pouvoir permettre aux autres de découvrir ses propres coups de cœur, et puis ben voilà, des choses qui peuvent être dans l'air du temps aussi, c'est sentir le temps. Alors on va y venir, on y viendra un petit peu plus tard sur ton projet à proprement parler, mais être passeur, finalement tu l'as appris sur le tas.
Oui, je l'ai appris sur le tas, et il y a un élément dont je n'ai pas parlé, mais qui est fondamental du fait que je suis là aujourd'hui devant vous. C'est que moi, je suis fils de paysan. Mon papa était horticulteur. Et du coup, je n'aurais jamais baigné dans la culture si je n'avais pas bénéficié à un moment donné de ce lien à l'art. Et ce lien à l'art, il est arrivé par une professeure de français quand j'étais au collège, qui a fait intervenir un homme de théâtre, et avec lequel on a travaillé pendant toute une année sur un projet. Et c'est là que j'ai découvert le théâtre. Et c'est ce qui fait que j'ai fait du théâtre après au lycée, et un peu plus tard, donc du chant, comme on en a parlé. Mais sans ce lien-là, jamais je serais allé vers ça. Peut-être que je serais dans les serres à avoir remplacé mon père, même si je n'avais pas très envie de faire ce métier. Mais voilà, s'il n'y avait pas eu cette accroche-là, je serais pas là.
La culture était très éloignée du quotidien, en tous les cas.
Oui, non, on passait plus de temps dans les champs, où moi je passais plus de temps à aider papa quand il y avait des coups de bourre, qu'à me préoccuper de savoir quelle pièce de théâtre j'allais aller voir le week-end. Voilà. Donc ça, c'est... Et d'ailleurs, on le retrouve pas mal dans mon parcours, parce que quand j'ai été au Crous, une des premières choses que j'ai faites, ça a été de mettre en place des ateliers de pratique artistique pour les étudiants. Ensuite, quand j'étais à la scène nationale de Sète, j'ai aussi mis en place des ateliers de pratique pour des gamins d'un quartier sensible. Quand j'ai été à Évreux, ça a été une des premières SMAC à faire une programmation jeune public et à monter des projets d'action culturelle et éducatif dans les quartiers aussi. Donc, ce lien, et puis au GNS Musical de France, bien entendu, on n'en parle même pas. Mais donc, tout ce lien-là à la pratique musicale en direction des jeunes, elle vient aussi du fait que j'ai jamais oublié d'où je venais moi-même.
Alors merci de dire ça, merci de le dire, parce que c'est pour moi c'est quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que souvent, au travers des invités que je peux avoir, on voit que c'est dans l'enfance qu'il se passe beaucoup de choses, et notamment les découvertes. Alors après, on peut aussi, attention, c'est pas parce que dans l'enfance on n'a pas été en contact avec qu'on peut pas découvrir par la suite, mais malgré tout, il y a des graines qui se sèment, et que c'est souvent par l'extérieur, parce que dans les familles, on n'a pas, pour différentes raisons, et quelles qu'elles soient, mais de l'importance, de l'importance primordiale de conserver cette possibilité de faire découvrir, de partager. Et tu parles des JMF, et je crois que tu as été à l'initiative d'un fonds de dotation qui a dédié au développement de l'action musicale, justement,
le fonds musical pour l'enfance et la jeunesse.
À destination de l'enfance et de la jeunesse. Ça a été un combat.
Alors, ce n'est pas tout à fait moi qui suis à l'initiative. Bon, je faisais partie de l'équipe de direction des jeunesses musicales, mais effectivement, dans les 10 dernières années, il y a eu quand même des avancées significatives, notamment en direction de la pratique des enfants et des jeunes au niveau artistique, mais quelles que soient les disciplines, d'ailleurs. Et à un moment donné, aux jeunesses musicales, on s'est dit qu'il fallait qu'on se dote d'une structure qui permettent d'aider les porteurs de projets sur cette dynamique-là de l'éducation artistique et culturelle. Et donc, on a créé ce fonds de dotation en partenariat avec la SACEM et la DAMI au départ, qui sont deux sociétés civiles. Et ça a été rejoint il y a maintenant 2 ans par le Crédit Mutuel. Voilà, et donc, on a aidé en 3 ans 120 porteurs de projets, quelque chose comme ça.
Oui, parce que là aussi, c'est important de rappeler que toute démarche nécessite des budgets. Et que ça n'est pas la culture, ce ne sont pas que des gens qui vivent d'amour et d'eau fraîche et de création. Ce sont des vraies personnes.
Avec l'amour et l'eau fraîche, on peut faire plein de choses, mais...
Mais pas forcément ça, non. On est bien d'accord. Donc ça, c'est effectivement, c'est aussi primordial que de pouvoir penser à mettre des budgets. Je te propose de faire une première respiration musicale et on parlera justement du projet que tu as proposé. Comment tu es arrivée dans notre joli coin de France. Alors, on va commencer par Raphaël Lanader. On en parlera tout de suite après. Elle fait partie des artistes qui sont suivis par le Train Théâtre depuis déjà pas mal de temps et voilà, qu'on a toujours plaisir à retrouver.
Je ne me jetterai pas, il a rougi déjà du sang fier de nos mères. Dans ces eaux, leur amour s'est changé en prière. Je ne trahirai pas ce que murmurent les pierres.
Raphaël Lanader, Femme, Vie, Liberté. Vous êtes toujours sur Radio BLV 93.6, dans l'invité de 11h et quelques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Vuillon, le nouveau directeur du Train Théâtre de Portes-les-Valences. Donc, nous en arrivions à ton arrivée, justement, à Portes-les-Valences, puisque tu es en poste officiellement donc depuis le 1er janvier. Pour devenir directeur ou directrice d'un espace, d'une salle telle que le Train Théâtre, on dépose un dossier, on demande, voilà, il y a un appel à candidature et un appel à projet. Et donc, chacun doit déposer un dossier qu'il doit défendre, qu'il ou elle doit défendre par la suite. Et toi, dans ton dossier, il y avait plusieurs choses. Moi, j'ai noté, dans les informations que j'ai eues, en tous les cas, fabrique à musique, la chanson francophone, développement de la chanson francophone, mais aussi par l'axe du développement des voix du monde. Et que les voix du monde, la francophonie, ce n'est pas nécessairement l'axe de sous-l'axe de la chanson en langue française. Alors bon, là, on voit une continuité aussi avec le travail qui est fait depuis plusieurs années. Et puis, des artistes associés. On en parlera un petit peu plus tard. Je suis assez contente en tous les cas de
pas tout dévoiler.
Voilà, on en parlera un petit peu plus tard. Mais ce projet, alors comment tu l'écris et qu'est-ce que tu y mets dedans?
Alors en fait, effectivement, quand on candidate sur ce genre de poste, c'est une scène conventionnée, donc il y a un cahier des charges qui est quand même très, très précis. On avait une note d'orientation qui nous donnait un cadre. Et à partir de ce cadre-là, il fallait chacun qu'on invente le projet qu'on voulait défendre. Ouais, ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. Mais c'est aussi très, très euphorisant de réfléchir sur un territoire quand on ne le connaît pas. Du coup, de se servir du passé et de ce qui a fait le lieu, de ce qui en fait sa renommée, parce que moi, je connaissais déjà le Train Théâtre depuis des années, parce qu'on a une relation avec Luc depuis 2005, je crois. C'est là où on s'est rencontrés sur un projet partagé que j'avais initié à 7 et où il est intervenu lui aussi, qui était autour de la compagnie des musiques à Ouïr, le projet des étrangers familiers.
Oui.
Autour de Brassens, qui a fait, je ne sais plus combien, 120 ou 130 dates, qui continue d'ailleurs, là, comme c'est l'année Brassens, ils en profitent pour faire encore quelques dates. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et du coup, on a gardé ce lien, après on s'est un peu perdu de vue. Moi, quand je suis parti à la SMAC, à Évreux, on s'est un peu perdu de vue, puis on s'est retrouvés après aux Jeunesses Musicales, puisque le Train Théâtre a pu être coproducteur de spectacles que les Jeunesses Musicales étaient aussi, auxquels les Jeunesses Musicales étaient aussi associées. Et donc le projet, après, je n'ai pas forcément vu les projets des autres candidats. Mmh. Je crois qu'on était 23 au départ.
Oui.
Ensuite, on s'est retrouvés, donc 23 à candidater. Mmh. Et ensuite, on s'est retrouvés à 7 à devoir écrire le projet. Et des 7, on s'est retrouvés à 4, puisqu'il y en a 3 qui ont déclaré forfait. Je pense qu'en voyant la masse de travail qu'il y avait à fournir, je pense que ça en a
refroidi quelques-unes.
Voilà, je pense.
Quelques-unes.
Et voilà, on s'est retrouvés à tous les quatre. Et puis, voilà, après, on défend notre projet devant un jury. Mm-hmm. Et puis le jury décide de qui il retient.
Quelle est la motivation pour se présenter comme ça, pour dire, tiens, je vais candidater pour la direction de cette jolie maison?
Alors,
si jolie maison,
oui, mais vous avez, tu as tout à fait raison. C'est une maison qui rayonne bien au-delà de l'agglo, on va dire, de Valence Roman. C'est une maison qui est reconnue au niveau national, en particulier des artistes qui sont passés, qui ont toujours un accueil très chaleureux de l'équipe du Train Théâtre. Et du coup, moi, si j'ai candidaté, c'est parce que le projet est pluriel et je ne voulais pas forcément retomber, comme j'ai pu le faire à Évreux, sur une SMAC. Je voulais un lieu où il puisse y avoir un mélange de disciplines artistiques. Mmh. Et donc, on le retrouve déjà dans le fait qu'il y a un temps fort autour de la marionnette, qui est quand même du cirque dans, oui, dans ce lieu. Autour de la francophonie, il y a plein de choses à inventer. Et tant mieux, il y a encore de la marge pour travailler dans les années qui viennent. Et du coup, pour être venu plusieurs fois au Train Théâtre, j'étais d'ailleurs venu il n'y a pas très très longtemps, j'étais venu au mois de février 2021, puisque nous y avions organisé les auditions régionales des Jeunesses Musicales.
Donc
pendant deux jours. Et à la fin des deux jours, j'avais dit, en lançant la boutade, si Luc se décide à partir, peut-être que je candidaterai. Et je me rappelle de Françoise, la directrice technique, qui me dit bah, peut-être à bientôt alors. Et puis, bah, me voilà aujourd'hui. Donc, non, c'est un lieu où je sens à la fois les bonnes énergies, où je sais que c'est un équipement qui va bien, qui est bien implanté, mm-hmm. qui a une vraie identité, complémentaire d'ailleurs des autres équipements culturels oui. phares, on va dire, de l'agglo, qui fait qu'il y a des passerelles entre nous, mais il y a aussi la spécificité qui fait chacun.
Il y a sa vraie identité.
Et voilà, je trouve que c'est un superbe défi qui m'est offert là, de poursuivre l'œuvre des deux précédents directeurs et de marquer de mon empreinte, j'espère, mon passage au train.
Alors, dans ce projet, tu disais effectivement qu'il y avait un cahier des charges qui était quand même assez, j'imagine, assez touffu et assez cadrant. Oui. Finalement, oui. Mais malgré tout, avec la possibilité d'avoir un peu, de pouvoir mettre un peu sa patte, justement.
Bah, c'est quand même le. Je pense que le jury et ceux qui choisissent, il y a aussi le regard extérieur que nous apportons nous en tant que candidat, enfin que moi j'ai en tout cas apporté. C'était de faire un peu un entre guillemets avec tous les guillemets un diagnostic de l'équipement et ce vers quoi on je pense intéressant de l'amener dans les années qui viennent. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, si je peux donner deux éléments, c'est que le premier, c'est une scène musicale. Mmh. Et que du coup, ce que je souhaite, c'est que sur un maximum de propositions qui sont proposées au train, que ce soit des... Bien sûr, quand c'est de la chanson, c'est réglé. Mais quand c'est du jeune public, du cirque ou de la marionnette... on est au maximum des musiciens au plateau, qui croisent, bien sûr, avec la discipline de la marionnette et autres. Mais mon intérêt dans le projet, si on veut que la colonne vertébrale musicale soit affirmée, c'est qu'il y ait au moins des musiciens au plateau sur toutes les propositions, ou en tout cas la plupart des propositions. Ça, c'est le premier point. Et du coup, j'ai oublié le deuxième point. mais ce qui est important aussi pour moi, c'est d'arriver... oui, ça y est, j'ai trouvé le deuxième point qui est non négligeable. C'est d'ouvrir aussi. Et du coup, cette ouverture, elle passe pour moi notamment par ce que tu disais tout à l'heure, les voix du monde. Et le fait que... ça fait le lien entre la chanson et la voix. Mmh. On la retrouve dans la chanson et on la retrouve dans les voix du monde. Et donc, c'est un dénominateur aussi qui est important pour moi parce que je crois que moi, je n'ai jamais autant appris du monde qu'en allant à la rencontre de ce monde. Donc, j'ai un peu voyagé et j'en ai toujours retiré des bénéfices que d'aller à la rencontre de l'autre. Et pour ceux qui ne pourraient pas forcément aller à la rencontre de l'autre pour tout un tas de raisons, les faire rencontrer l'autre... par une programmation d'artistes internationaux qui sont de passage en France et qui ont des choses à dire et des choses à et du sensible à donner au public, ça me paraît important. Donc c'est pour ça que j'ai mis cet axe-là dans mon projet. Ça fait aussi le lien avec les déferlantes, parce qu'il y a aussi une continuité dans cette démarche-là. Voilà les deux points forts que j'ai voulu relever dans mon projet. Alors on peut aller plus loin. Par exemple, j'ai sollicité la ville de Porte. Ça, c'est peut-être une... Je ne sais pas si c'est un scoop, mais en tout cas... pour savoir s'il était possible que le parking qui est attenant au train théâtre, on puisse enlever les plots qui permettent de délimiter les places pour qu'on puisse implanter du chapiteau. Donc, ça a été accepté. Donc, j'espère que dans la saison prochaine, on pourra au moins faire deux temps avec des chapiteaux de cirque contemporain pour donner aussi là un autre aspect de notre travail et de ce que j'aimerais porter au train théâtre. Alors, bien sûr, ce sont des spectacles de cirque avec forcément de la musique jouée en live, sinon ça n'aurait pas de sens.
Ouais, ce qui est généralement le cas, souvent le cas dans le cirque contemporain et dans les grands cirques contemporains. Oui.
Voilà, donc ça, c'est... Et puis, l'autre aspect que j'ai voulu mettre en avant dans le projet, c'était aussi on a besoin de la présence artistique sur le territoire pour pouvoir justement porter des projets qui touchent les publics. On parlait du jeune public tout à l'heure, mais il y a d'autres publics. Hein. On peut très bien intervenir en milieu pénitentiaire, on peut intervenir à l'hôpital, on peut intervenir dans les EHPAD.
Chaque année, mais on s'est retrouvés particulière à l'ADAPT.
Il y a plein d'endroits où on peut intervenir. On peut intervenir dans une MJC, on peut intervenir dans un centre social. Enfin bref, on peut intervenir dans un centre de réfugiés. Enfin bref, on a cette mission-là aussi en tant que service public, que d'aller à la rencontre de ces publics. Et pour aller à la rencontre de ces publics-là, il faut qu'on ait, entre guillemets, de la ressource artistique pour pouvoir porter ces projets. Et donc, dans ce que j'ai pu écrire, j'ai souhaité m'associer à deux artistes. Alors, il y en a un qui est connu, qui est Alexis HK.
Bravo.
Pour le coup, je ne savais pas, mais c'est Luc qui me l'a dit plus tard, que Alexis avait un lien fort au Train Théâtre. Ouais. Mais que pour autant, il n'avait jamais porté avec le train un projet d'action culturelle, notamment sur le territoire, et que donc c'était très bienvenu que ce soit avec lui que ça se passe. Et l'artiste féminine, il y a un peu de... J'attends encore, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir trouvé. Il y en avait une qui était positionnée dans mon projet, mais bon, bref.
On verra.
voilà, ça, j'ai encore un peu de temps pour affiner ça, mais mon idée, c'était vraiment qu'il y ait un homme et une femme.
Et qui change chaque année ou ça sera, alors, ça sera sur plusieurs années?
A priori, on part sur 3 ans. Parce que là, c'est pareil. L'idée, c'est de co-construire avec l'artiste le projet de ces 3 années à venir en tant que lui, artiste, de ce qu'il a envie de porter, mais aussi de ce qu'on va construire avec lui sur le territoire. Donc, le fait d'avoir du temps, ça permet de tisser les liens nécessaires pour que aboutissent des projets ici ou là.
Bien sûr.
Et puis, dans 3 ans, ben, on passera... À quelqu'un
d'autre. Non, c'est important de pouvoir s'installer dans la durée.
Oui. Moi, je suis pas.
Et one shot.
Voilà.
C'est,
voilà. Alors, ça peut être très bien.
Ça peut être très bien sur certaines
mais,
choses.
Mais si on veut faire un travail de fond, c'est pas sur one shot que ça se fait. Donc là, si on a 3 ans devant soi, avec Alexis déjà, on a déjà bien balisé a priori les 3 années à venir. Et ça va nous permettre, voilà, de le construire ensemble. Et c'est une. Pour moi, c'est une relation aussi intime et c'est une relation de confiance qui doit s'établir entre l'artiste qui est associé à un lieu et le lieu. Et c'est très excitant comme démarche.
Oui, et puis le territoire, effectivement. C'est toujours intéressant de voir comment un artiste aborde un territoire et avec ce qu'il est ou ce qu'elle est, et puis avec ses outils aussi, et puis du coup ce qui va être créé au travers des rencontres.
Mais je crois que ce qui est intéressant aussi dans cette démarche-là, c'est que l'artiste peut se permettre d'expérimenter des choses auxquelles il a pu penser, qu'il a dans un coin de sa tête, mais qu'il n'a jamais mis en place. Parce que pas le temps, parce que tout un tas de raisons. Et là, justement, c'est dire, bon, ben là, t'es avec nous pendant 3 ans, on t'embarque avec nous dans le train, pas sur le bateau, mais dans le train. et on se donne le temps d'expérimenter, de tester des choses, et puis de faire vivre le projet du Train Théâtre à travers ce que tu vas porter, toi, comme action.
Alors, juste pour une petite anecdote, mais pour rebondir sur ce que tu disais, où l'action culturelle, elle est menée partout. Dans la dernière, donc dans la semaine particulière au Safran, il y avait notamment, donc on était, Radio BLV faisait un atelier sur la semaine, et à un moment, on a accueilli Evelyne Gallet, qui venait donc présenter, animer justement un atelier. Et donc, on avait nos animateurs et animatrices amateurs qui étaient des gens qui étaient hébergés au Safran, enfin bon, qui avaient eu notamment principalement des AVC. Et il y a une dame qui est, donc Evelyne est arrivée avec sa guitare. Et il y a une dame qui était une des dames qui était là, qui l'a regardée, qui dit, vous savez, je vous remercie parce que c'est la première fois que je vois un instrument de musique en vrai. Et Renée, elle devait avoir, je sais pas, peut-être c'est une dame qui avait 70 ans. Voilà, bah, je trouve que ça résume bien aussi ce que ça peut être, ça. Et d'un seul coup, il y a eu... voilà, on peut aussi ne jamais, effectivement, avoir approché, ça existe.
Bien sûr.
Et qu'on est aussi là pour ça. Je te propose de faire une seconde pause musicale. C'est Delzide. On part à Mayotte, c'est ça. Et on continuera le voyage tout de suite après.
Timi famali, timi adi adi. Matiting marandrenge riva, manruba kafia va nangaiyo. Famali, timi adi adi, matinting marandrenge riva, manduba kafia va. Tau forati
dia dia dinarewo
anaruri habanga
dia dia dinarewo
kaza tau forati
dia dia dinarewo
anaruri habanga
anarewa Analewanye, lesambirikiyanga, atika, lesambirikiyanga, atika, lesambirikiyanga. Analewanye, lesambirikiyanga, analewanye. Lesambirikiyanga, atika. Lesambirikiyanga, atika. Lesambirikiyanga,
dia dia ganarewo.
Kaza to forati,
dia dia ganarewo.
Anaruri habanga,
dia dia ganarewo.
Kaza to forati,
dia dia ganarewo.
Anaruri habanga.
Delzide Ambila Adiadi, je ne suis pas certaine de l'accent, mais c'est pas très grave, le cœur y est. Et ils nous viennent de Mayotte. Alors, bah, Mayotte, ça nous permet de faire de faire juste un petit saut avant de parler de toute la programmation, mais enfin, d'une partie de la programmation. Mayotte, ça fait le lien avec les déferlantes. Ah, les déferlantes qui continuent en tous les cas cette année. Après, on verra la saison prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Mais cette saison qui a été tricotée encore par Luc et puis sur laquelle toi tu tuiles un petit peu. Les déferlantes, c'est quand? Parce que c'est pas encore complètement arrêté. Bon, on sait tous. Hein, on a aussi on a un truc qui s'appelle le Covid qui nous enquiquine pas mal aussi. Et j'imagine que bah, pour vous comme pour les autres, ça complique. Mais c'est à quelle période les déferlantes?
C'est du 18 au 25 mars. Ça n'a pas bougé. C'est encore la programmation qui est en. Il manque encore de petites choses, mais c'est très très bientôt fini. Oui.
Donc on a hâte de voir ça. Comment ça se passe? C'est pas parce que c'est pas si facile, il me semble, que d'arriver justement sur une programmation qui a été conçue par quelqu'un d'autre, et puis de se couler dedans,
ça fait partie du jeu. Non, mais là, c'est là. J'ai la chance d'arriver, comme je disais tout à l'heure, dans une structure qui va bien. Et la programmation, il y en a une grande partie que j'aurais pu faire moi-même. Donc, ce n'est pas un souci de se glisser dans les chaussures de Luc. Et puis après, je ferai quelques trous dans les chaussures, oui, pour proposer autre chose.
Alors cette programmation.
Mais je révolutionnerai pas en tout cas. Ça, ouais. C'est évident qu'il y a un socle fort et qui fait la renommée du lieu. Il n'est pas question de révolutionner ça. C'est plus des aménagements à la marge et de faire évoluer.
Mais voilà, on peut faire évoluer sans nécessairement tout casser. C'est aussi intéressant, c'est parfois un défi.
Je ne suis pas un déménageur. Hein.
Alors, quelques dates peut-être à venir, puisqu'on continue. Alors, ça va être très compliqué de tout faire. Allez, je prends au hasard un petit peu parce qu'il y a des. Alors, il y a le cabaret Chanson Primeur qui continue. Ça, c'est important. Donc, un nouveau rendez-vous le 10 février.
Peut-être rappeler un petit peu ce que c'est quand même. C'est une formule qui est assez unique quand même sur le territoire. Il y a quelques structures qui le font. Mais l'idée, c'est de mettre en incubateur, en gros, 7 ou 8 artistes qui composent ensemble, qui écrivent à la fois les chansons et qui composent l'instrumentarium de ces chansons-là. Et au bout de 4 jours, ils en présentent le travail de ce que ça a donné.
Mais c'est ça, hein, ils arrivent, ils ont 4 jours.
Ils ne se connaissent pas forcément.
Et des univers parfois très différents.
Et puis, l'alchimie opère.
Ouais. Et pour avoir eu de discuter avec certains et certaines d'entre eux, parfois il y a quand même aussi pas mal de chansons qui passent au répertoire finalement.
Absolument.
parce qu'il s'est passé un truc là, un peu magique, et c'est aussi un grand cadeau, je trouve, qui est fait qui nous est fait bien sûr en tant que spectateurs et spectatrices, mais aussi aux artistes. Toujours chapeauté, on va dire, par Ignatius.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas si chapeauté est un véritable bon mot, mais bon, en tous les cas.
Il sert de fil, en tout cas.
Voilà. On va retrouver Nomade, par exemple, le 1er mars. Alors pourquoi on en parle ? Parce qu'ils sont quand même un petit peu du coin. le 6 mars, spécial, un spectacle spécial, Journée internationale des droits des femmes, en partenariat avec la ville.
Oui. Et là, par contre, je ne peux pas en dire grand-chose. Je ne sais même pas si on sait à l'heure actuelle ce qui va être proposé. Je ne sais pas.
Alors, il demande ça parce qu'en fait, on a Isabelle Blachon qui se cache, qui refuse, qui ne voulait pas parler, mais qui est là à côté, qui, elle, on sait un petit peu plus. Est-ce que toi, tu en sais un peu plus, Isabelle ?
Non, elle me fait
non de la tête. Elle ne veut vraiment pas parler, il n'y a rien à faire. Donc ensuite, on aura Zaza Fournier et Dimoné, par exemple, pour un co-plateau le 15 mars. Belle soirée aussi à venir. Donc, du 18 au 25 mars, on a Halle et Déferlante. Est-ce qu'il y a des... Parce qu'on peut... On pourrait le continuer. Alors, il y a La Nuit de tous les jazz qui revient aussi.
Le marathon du jazz, on pourrait l'appeler.
Marathon du jazz, oui, c'est vrai. C'est un peu... On achève bien les chevaux, on pourrait dire, mais bon, ça ne serait pas forcément
Et d'ailleurs, dans la thématique des voix du monde, il n'est pas impossible qu'il y ait des voix du jazz qui, du coup, se retrouvent dans la saison prochaine. Je n'en dirai pas plus.
Alors, on va attendre ça avec une impatience certaine. C'est promis, il nous en dira plus très vite, je vous le promets. Il faut l'apprivoiser, voilà. On va pas commencer à le secouer de trop, quand même. La Nuit de tous les jazz, ce sera le samedi 14 mai. Est-ce qu'il y a dans cette programmation, donc jusqu'à mai, jusqu'à fin mai, une chose que tu as envie de sur lequel tu as vraiment envie d'insister, quelque chose qui t'a ou quelque chose qui que toi tu as découvert?
Alors oui, du coup, ce sera pas forcément de la chanson pour le coup, mais c'est une compagnie qui défraie la chronique depuis quelques années. Et c'est une compagnie qui sera du coup au Train Théâtre les 24 et 25 mai. C'est les Anges au plafond, qui font un immense travail à la fois marionnette et musique. Et ça, je recommande chaleureusement d'aller voir ce qu'ils font parce que c'est étonnant de poésie, de création, de manière d'aller chercher le public aussi en les touchant au plus profond de chacun de nous. Et franchement, je suis assez fan de cette compagnie.
Alors ça, ce sera le 24 et 25 mai.
Tu as déjà parlé de presque toute la programmation chanson. Donc
voilà, non mais c'était bien, c'était bien de le dire. Et puis ça permet aussi de revenir sur cette particularité, effectivement. Marionnette, ne pas que le voilà, c'est, les choses ont continué, que ce soit marionnette, cirque, mais donc avec ce souhait, cette volonté même affirmée d'avoir de la musique vivante sur scène. Et je reviens à ton histoire de créer une fabrique à musique. Finalement, on est bien là-dedans et c'est vraiment ce que tu souhaites pouvoir continuer et affirmer.
Absolument. Je crois que la question des voix du monde n'était quand même pas beaucoup abordée dans les programmations des différents lieux qui composent l'agglo. Donc, c'est un axe que je souhaite vraiment développer. Et puis après cette question on va être en phase là de réécriture de la convention d'objectifs avec les partenaires financeurs du Train Théâtre et donc elle sera signée au mois de septembre, je pense septembre-octobre, et c'est vraiment quelque chose que je veux défendre comme une ligne, voilà, une colonne vertébrale, que la musique soit présente au maximum
toujours.
Et je rajouterais quand même que le cinéma, dont on n'a pas parlé jusque-là, a toute sa place aussi dans cette programmation. parce que pour moi, il y a des liens qui doivent s'opérer entre la programmation du cinéma et la programmation de la partie art vivant du Train Théâtre. Parce qu'il y a des connexions évidentes. Et je pense qu'on peut arriver à développer des projets qui arrivent à combiner... Les deux univers.
Hâte de voir ça aussi. Juste avant de se quitter, les artistes locaux, est-ce qu'il y a une volonté aussi de pouvoir faire une place particulière ? Alors, quand je dis locaux, pas nécessairement locaux, régionaux, ils ne sont pas dans la même rue, on est bien d'accord, mais est-ce que ça, c'est aussi...
C'est un enjeu que d'aider et de promouvoir les artistes locaux, ou en tout cas régionaux. Ça fait partie du cahier des charges aussi d'une scène comme la nôtre. On a des moyens qui sont mis à notre disposition pour les aider à créer, à mettre au moins le plateau à disposition pour qu'ils puissent travailler leur future création. Donc ça, bien évidemment...
Ça c'est... continue.
Ah ben oui, c'est... Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Je ne vais pas faire venir que des artistes des régions alentours, et pour ne pas parler de Parisiens. non, c'est bien évidemment, la scène régionale aura toute sa place. Après, comme je suis nouveau, que j'arrive sur ce territoire, j'ai aussi besoin de les rencontrer.
Bien sûr.
Donc j'ai pu bénéficier, parce que c'est l'occasion qui s'est présentée la semaine dernière, de 2-3 jours à Bourg-en-Bresse, où il y avait la route des vins et où on a vu 24 équipes artistiques. D'ailleurs, j'ai été assez bluffé par la qualité de ce qui a été présenté. Et du coup, il faut que je profite de ces moments-là,
bien
notamment
sûr,
pour arriver à aller plus vite, à gagner du temps, parce qu'il faut que je rencontre les 1000 compagnies qu'il y a sur la région. Je ne suis pas au bout.
Non, mais en tous les cas, c'est vrai que c'est très important aussi, effectivement, que un passage en résidence au Train Théâtre, c'est quelque chose qui
a tous les aspects, première partie, etc., où on peut
vraiment,
arriver aussi
vraiment important.
À faire travailler les artistes de la région.
Et ça permet de passer souvent un palier. Merci. Alors, on resterait pendant très, très, très longtemps encore, parce qu'on aurait plein de choses à se raconter, mais tu reviendras. C'était la première fois. J'espère que ce ne sera pas la dernière, bien au contraire. Et puis, on te souhaite le meilleur, Toy Toy, pour cette nouvelle aventure. Et puis, nous toutes et tous, on va être très heureux de pouvoir continuer à aller au Train Théâtre. Et on attend avec impatience toutes les belles choses qui vont s'en venir. Merci beaucoup.
Et puis
on va se quitter avec Frédéric Bobin, Le Soir Tombe. C'est bien nommé. Et Frédéric Bobin, qu'on retrouvera dans plusieurs en concert, et aussi, tu en parlais tout à l'heure, dans le Eh ben voilà, j'ai un trou dans le cabaret primaire. Ben voilà. Je vais y arriver, c'est ça. Merci beaucoup.
À très bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Le soir tombe et je n'ai pas changé le monde. J'ai laissé passer les cigognes distraits par de vagues besognes. J'aurais tant voulu être bon, m'en aller comme un vagabond, arroser les terres brûlantes, accélérer les valses lentes. Le soir tombe, j'ai flâné dans les rues profondes, et j'ai vendu la peau de l'ours, je n'ai pas su trouver la source. J'aurais tant voulu être utile, interrompre le bruit des villes, écouter le cœur des saisons, mettre du bleu sur l'horizon. Les ombres s'allongent. Je n'ai pas changé l'eau des fleurs, je n'ai pas mis ma montre à l'heure. J'aurais tant voulu affaiblir les voix qui règnent sur les empires, chanter pour les hommes oubliés, briser le verre des sabliers. Que restera-t-il de nos peines, de nos espoirs, de nos je t'aime? J'ai laissé au bord du sentier quelques poèmes inachevés. Si tu viens les cueillir demain, je veillerai jusqu'au matin. Veillerai jusqu'au matin.
On va continuer à faire des selfies dans le studio, qu'est-ce que t'en penses?
Bien, merci énormément. Vive la France libre.
Une révolution humaine.
L'invité de 11h et quelques.